combien de milliards sont consacrés par an à l'armement. Même les pays pauvres. Vous avez déjà vu à la télévision des informations sur des pays en Afrique qui sont pauvres. Ils sont armés de chars de guerre. C'est impressionnant. Ils n'ont rien et pourtant ils ont trouvé des millions et des millions pour trouver de l'armement. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre. Les Américains consacrent 1 milliard par jour à l'armement. Vous avez entendu ? 1 milliard. 396 milliards, ça fait un peu plus même, par an, consacrés à la défense. C'est pas des milliards de centimes, hein. C'est des grosses sommes. Vous ne croyez pas que c'est terrible, hein ? La guerre, la violence s'étalent partout, sur nos écrans, partout, partout, même dans les jeux pour les enfants, il y a de la violence, etc. Oui, les armes à feu, on dit bien qu'on n'en vend pas, mais ils s'en trouvent partout. C'est quelque chose de terrible. Les Grecs adoraient aussi le dieu Mercure. Le Mercure, je ne parle pas du produit, hein, c'est le dieu du commerce. Le dieu du commerce. Alors, est-ce qu'il y en a du commerce aujourd'hui ? Dites-moi. Hein. Est-ce qu'il est servi, ce dieu-là ? Hein, dites-moi. Oh, il y a le commerce honnête. Peut-être que vous êtes commerçant. Une fois, j'avais parlé du commerce. Et j'avais parlé de la malhonnêteté. Et j'avais parlé que de la malhonnêteté. Et il y a une personne qui était venue me dire, écoutez, monsieur Gou, il n'y a pas que des commerçants malhonnêtes. Et elle avait bien fait de me reprendre, d'ailleurs, la personne. Mais n'oublions pas que s'il y a un commerce honnête, il y a beaucoup de commerces qui ne le sont pas. Tout se vend aujourd'hui, tout. Le sport, vous avez vu le sport ? Des joueurs payés 80 millions d'euros par mois. Tout se vend, le sport, on parlait de l'armement. Là, les organes se vendent. Il y a des enfants dans certains pays qui sont kidnappés pour qu'on leur... Ils sont tués dans des hôpitaux pour qu'on leur prenne les organes pour sauver des enfants de riches. Tout se vend. Le sexe, les organes. Tout est ramené à la notion de profit. Tout. Tout sur la terre. On ne parle que d'argent, de pots de vin. Des pots de vin, on en voit partout. Même la religion. Même la religion. C'est une affaire de commerce. L'apôtre Paul dit que pour certains, la piété est devenue une source de gain. La piété est devenue une source de gain. J'ai trouvé dans un bouquin une fable, c'est pas une fable, c'est un commentaire de Victor Hugo à l'époque, comment il parlait de la religion. Je vous le lis. Écoutez ça. Vraiment, ça vaut le coup. Enfin, ça vaut le coup de le lire. Vous vendez le baptême au jour de la naissance. Vous vendez aux pécheurs l'inutile indulgence. Vous vendez aux amants le droit de s'épouser. Vous vendez aux mourants le droit d'agoniser. Vous vendez aux défunts la messe funéraire. Vous vendez aux parents l'office anniversaire. Vous vendez oraison, messe et communion, chapelet, croix, bénédiction. Rien n'est sacré pour vous. Tout vous est marchandise. Et on ne saurait faire un pas dans votre église sans payer pour entrer, sans payer pour s'asseoir, sans payer pour prier. L'autel est un comptoir, à nous le riche, au diable l'indigent. Signé Victor Hugo. Moi j'ai trouvé ça qu'on pouvait l'inclure dans une prédication. Oui ou non ? Vous êtes d'accord ? Et c'est ce qui se passe ? Vous vous rendez compte ? La piété, l'apôtre Paul l'avait prophétisé, deviendrait une source de gain. C'est quelque chose de terrible. Les Grecs avaient aussi la déesse Fortune. Qu'est-ce que vous avez ? La déesse Fortune aux yeux bandés. Et vous ne croyez pas aujourd'hui les jeux de hasard, les casinos, les gens qui ruinent leur vie avec les casinos, avec les jeux de hasard, hein ? Il y a des gens qui ont détruit, vous avez déjà peut-être vu des émissions, qui ont détruit leur foyer, leur couple, leur maison, pour essayer de s'enrichir facilement. Je ne pense pas que c'est interdit de s'enrichir. Est-ce que vous pensez que c'est interdit ? Non. Mais s'enrichir malhonnêtement ou facilement, je ne crois pas que c'est bien. Hein. Le vendredi 13, vous avez vu vos informations, chaque fois qu'il y a un vendredi 13, cette année, il paraît que c'est bien. Parce qu'il y a 3 vendredis 13 en 2012 et qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire fortune. Alors, vous le faites ça ? Dites-moi, Jérémy, c'est toi qui le fais. Hein. Les Grecs encensaient la déesse Vénus, la déesse de la sensualité. Dites-moi, cette déesse, est-ce qu'elle existe encore ? La déesse de la sensualité. Dites-moi, hein. Tout est fait aujourd'hui pour amener les gens à la sensualité. Et croyez-moi, cette déesse aujourd'hui, elle est en bonne santé. faites-moi confiance, elle se porte bien. Hein. Même pour vendre n'importe quoi, on vous présente une pin-up à côté. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous voulez vendre une voiture, vous voyez une jolie jeune fille à côté, un mini-jupe. Tout est basé là-dessus. Partout, partout, partout. Les journaux, la télévision, dans les rues, dans la mode, partout, vous ne voyez que ça. Tout est fait et basé sur la sensualité. Vous savez, le Seigneur Jésus a parlé qu'à la fin des temps, ça ressemblerait beaucoup à Sodome et à Gomorre. Mais moi, je vais vous dire, je ne suis pas branché dans ces choses et je ne veux surtout pas m'y intéresser. Mais je crois franchement qu'il y a longtemps qu'on les a dépassés. Je ne sais pas comment ça se passait du temps de Sodome et Gomorre, mais je suis persuadé que c'est devenu pire. Pire parce qu'aujourd'hui, on le légalise. Avant, c'était interdit, tandis que maintenant, on légalise le débordement. On a même, dans nos candidats à la présidentielle, quelqu'un qui veut légaliser ces choses-là. C'est une abomination. Quand on légalise le mal, quand on légalise les abominations qui sont présentées dans la parole de Dieu, quand on légalise les débordements, laissez-moi vous dire que ça ne va pas amener la bénédiction de Dieu sur notre société. Ces choses-là, il est écrit que ça attire la colère de Dieu. Vous lirez dans Romains au chapitre 2 et vous verrez que toutes ces choses attirent la colère de Dieu. Les Grecs vénéraient un autre Dieu qui s'appelait Bacchus. Vous savez qui c'est Bacchus? Bacchus, c'est le Dieu du vin. Alors je peux vous dire que ce Dieu-là, eh bien, lui aussi il existe. J'ai lu un article dernièrement, la fête du vin à Bordeaux, on attend un apéro géant. Vous savez, les gens, ils se connectent par Internet, là, je ne sais pas comment, sur Facebook. On attend pas moins de 350 000 personnes pour un apéro géant. Vous vous rendez compte? Les gens, voilà, ils pensent à ça. Et bon, moi, je suis persuadé que c'est bon de boire un verre de vin. Est-ce que même Paul ne le conseille pas à Timothée pour ses fréquentes indispositions d'estomac? Est-ce que c'est possible? Oui. Je crois que ben, c'est comme tout. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de terrible. Combien de jeunes sont morts à cause de l'alcool? On le sait, enfin, il n'y a rien à dire là-dessus. Combien de familles ont été détruites à cause de l'alcool? L'alcool pour rire, ça se termine souvent, croyez-moi, avec des pleurs et avec des cauchemars et avec des drames dans les familles. C'est vrai ou c'est pas vrai? Combien de familles sont détruites à cause de l'alcoolisme? Il y a dans chaque rue presque de France, dans chaque grande ville, combien de cafés il y a en France? Combien de cafés il y a en France? Combien de cafés il y a à Toulouse? Est-ce que quelqu'un serait capable de me le dire? D'après vous, il y en a combien? 100, 200, 500, 2000? Rien que dans l'avenue? Des adorateurs de Bacchus, il y en a, je vous le dis, dans toutes les couches de la société. Ce n'est pas que les gens minables, qu'on appelle minables, qui se saoulent. Je peux vous dire qu'il y a autant de riches que de pauvres qui en sont esclaves. C'est vrai que ça rapporte des milliards d'euros à l'État. Croyez-moi. Quelle misère. Vous voyez, ce Dieu-là, il existe toujours. Alors, on ne les présente plus. Il n'y a pas, sur la place du Capitole, le dieu Bacchus qui est représenté avec sa bouteille. Non, mais combien d'hommes et de femmes sont détruits à cause de l'alcool? Si ça vous est déjà arrivé de discuter avec des clochards, des SDF, combien en sont arrivés là à cause de l'alcool? Et certains sont dans la rue, mais je peux vous dire que beaucoup sont dans des asiles psychiatriques à cause de cette déchéance. Le dieu, ils avaient le dieu Morphée, le dieu des rêves et des songes. Morphée, ça a donné le nom morphine. Le dieu de la drogue, l'évasion et tous les produits qui se rattachent à la drogue, le hashish, l'héroïne, la cocaïne, Il y a des gens qui détruisent leur vie avec ceux de la... C'est un esclavage. Parfois, on entend les gens qui se droguent, vous dites, mais moi, je suis libre, je prends de la cocaïne, mais justement, je suis libre. Non, moi, je crois qu'il n'y a que Jésus qui peut délivrer les gens. Et ce soir, nous avons la joie de présenter ce Seigneur qui délivre. Lorsque Paul leur parle de ce Dieu inconnu, il parle de ce Dieu qui est vivant, qui ce soir, 2000 ans après, est prêché dans cette ville de Toulouse, ce Dieu qui honorera ceux qui mettront leur foi en lui. Vous savez, il y a des gens qui se disent religieux. Alors bien sûr qu'ils ne sont pas en train d'adorer le dieu Bacchus. Certains n'ont pas le dieu Morphée. Certains n'ont pas le dieu Mars. Certains ne sont pas tombés dans la sensualité, peut-être. Mais quand on voit comment certains traitent Dieu aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui vont 4 fois dans leur vie à l'église. 4 fois. Le jour du baptême, de leur baptême, quand ils sont petits, avec les bonbons et les dragées. La deuxième fois, 12 ans. Pour la communion solennelle. Qui c'est qui l'a fait la communion solennelle? Il y en a qui l'ont fait? Moi, je l'ai faite. Hein, à 13 ans. Hein. À 25 ans, à peu près, pour le mariage. C'est quoi la moyenne en France pour le mariage? 25, 30 ans, c'est quoi le mariage? Et puis la dernière fois, là, on nous y conduit, parce qu'on ne peut pas y aller tout seul. On nous y conduit parce qu'on est dans une boîte. Voilà. Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est pas avoir un Dieu de plus? Est-ce que c'est ça la religion, aller 4 fois dans sa vie à l'église et être content d'y aller que 4 fois? Moi, dans l'église, j'y étais 3 fois. On me l'a dit, ça. La dernière fois, on m'y amènera les pieds en avant. Voilà ma religion. Moi, je crois que c'est pas très sérieux, ça, voyez. C'est comme ça qu'il faut traiter Dieu. Comment vous traitez Dieu, au fait? Parce que c'est bien de parler des Athéniens avec leur Dieu, mais nous, ce soir, comment traitons-nous Dieu? Qui est-il pour vous? Est-ce que vous avez un Dieu que vous visitez 4 fois dans votre vie? Est-ce que Dieu, vous y pensez davantage? Est-ce que pour vous, c'est un peu plus, une fois par an? Il y a des gens, ils se contentent d'un Dieu d'une fois par an. Est-ce que vous traiteriez votre ami de la même manière? Un ami que vous visiteriez juste une fois par an? Alors c'est vrai qu'au verset 30 de ce texte, il y a quelque chose d'extraordinaire. Si vous avez votre Bible ouverte, il est dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc, comme on l'a chanté, on peut repartir à zéro. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce soir, je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas comment vous traitez Dieu. Je ne sais pas si vous avez une de ces idoles dans votre vie. Mais une chose est sûre, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Ce texte nous dit que Dieu veut l'amener au pardon, à la repentance. Il y a un Dieu qui bénit. Et quand vous lisez la Bible, ce matin, je lisais le livre de Job. Bon, est-ce que Job a découvert que Dieu était comment? Tiens, qu'est-ce qu'il a découvert, Job, de Dieu? Que Dieu était comment? Parce que chaque homme dans la Bible présente un aspect des caractères de Dieu. Est-ce que vous pensez que Job a dû dire à la fin de sa vie, vraiment Dieu est grand? Est-ce que vous pensez que... Vous avez vu ce que Dieu a fait dans la vie de Job? C'est pas extraordinaire? Dieu a découvert combien... Job a découvert combien Dieu était grand. Élie, vous avez vu Élie, cet homme, il a vu comment Dieu était juste. Ésaïe, dans le temple, il a vu la sainteté de Dieu. Quand vous vous approchez de Dieu, vous découvrez certains aspects de son caractère. Et ce texte nous dit dans l'acte que Dieu se révèle. Quand Dieu se révèle, il est plus grand que tout. Il est plus grand que la lumière. On a chanté « Dieu est ma lumière ». Mais la lumière, c'est une chose. Est-ce que Dieu est plus grand que la lumière du soleil? Est-ce que Dieu est plus grand que le soleil qu'il a lui-même créé, etc. Oui, Dieu est plus grand que tout. Et Dieu veut se révéler. Ce texte nous prouve que même à cette époque à Athènes, Dieu voulait se révéler. Il y avait tous ces épicuriens qui aimaient faire la fête, mais Dieu voulait leur parler. Dieu veut vous parler. Est-ce que vous êtes un religieux? Est-ce que vous aimez faire la fête? Comment vous connaissez Dieu? Est-ce que vous connaissez Dieu comme ce Dieu qui pardonne? Vous n'avez pas besoin de pardon. Cet après-midi, j'avais une jeune femme dans mon bureau qui a fait que des bêtises. Pendant 2 ou 3 ans, une chrétienne. Elle m'a dit, j'étais baptisé. Mais je n'étais pas converti. Et cette fille, Dieu l'a bénie. Elle vient d'expérimenter vraiment la grâce de Dieu. Et je lui ai dit, c'est beau d'avoir un Dieu qui pardonne. Et ça, c'est important, de savoir qu'on a un Dieu qui pardonne, qui ne nous traite pas selon nos péchés, qui ne nous punit pas selon nos iniquités. On l'a vu au verset 28. Hein, vous l'avez vu avec moi? Car en lui nous avons la vie. Au verset 27, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. C'est pas beau ça d'avoir un Dieu qui soit proche? Est-ce que c'est bien d'avoir un Dieu qui est proche? L'apôtre Paul le dit ailleurs, il est à portée de main. C'est pas beau ça? Ce soir Dieu est proche, il est là au milieu de nous, il est proche, il n'est pas loin, il parle par sa parole. Voyez, ce soir, il veut vous parler au travers de ce texte. Il veut vous expliquer ce qu'il est, ce qu'il a fait, comment il a donné sa vie sur le bois de la croix, comment il est ressuscité. C'est vrai que quand on parle de résurrection, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça a mis court à la prédication. Vous avez vu? Il a parlé, il paraît que c'était quand les exégèses, les théologiens parlent de ce discours, ils disent que c'est un des plus beaux discours qui n'ait jamais été fait. Que le discours de l'apôtre Paul à l'Areopage d'Athènes. Mais voyez, quand l'apôtre Paul a parlé de résurrection des morts et de la résurrection de Jésus-Christ, ils se sont moqués. Vous croyez que les hommes ont changé depuis 20 siècles? Oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Les gens continuent à se moquer. Et pourtant, c'est important de parler de la mort et de la résurrection de Jésus, parce qu'il n'y a que par ce biais-là qu'on peut être sauvé. Si nous ne nous repentons pas, nous ne pouvons pas aller au ciel. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle de repentance, de conversion. Il parle de la croix. Pourquoi ? Parce que Jésus a souffert à notre place. Il est dit dans les Corinthiens que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est pas beau ça ? Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et vous, est-ce que vous êtes réconcilié avec Dieu ? Vous voyez, pour la soirée, on a fait mettre la partie du verset sur le mur. Exceptionnellement, est-ce que vous êtes réconcilié avec le Seigneur ? D'autant plus que le verset 29 dit « De lui, nous sommes sa race », dans le sens où nous ne sommes pas venus du néant, nous ne sommes pas venus des cellules et de l'eau ou de Mars, comme certains le disent. On l'entend ça. On m'a prêté un DVD cette semaine. Ce sont que des savants, des scientifiques, évolutionnistes, qui croient dans l'évolution. Et tous ces savants, tous, on peut le regarder un soir, c'est très intéressant, je n'ai pas lu en entier, tous ces savants sont en train de basculer dans le créationnisme parce qu'ils réalisent que ce n'est pas possible que l'évolution ait créé ces choses, mais qu'il faut qu'il y ait un créateur derrière. C'est merveilleux, c'est des savants connus du monde entier, ils se sont réunis, et en travaillant, ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible. Il fallait qu'il y ait un créateur derrière tout ce que nous voyons. Nous ne sommes pas une erreur de la nature. Et au verset 26, on le dit, nous sommes tous issus d'un même sang. Vous vous rendez compte ? Il a fait que tous les hommes sortis d'un même sang. Nous sommes tous à la même enseigne, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. On l'a chanté, nous avons besoin de la grâce de Dieu. D'autant plus que ce texte nous parle de la grâce, mais ce texte nous parle aussi du jugement. Il y a un message sérieux dans l'évangile. On le relit le verset 30, c'est quand même sérieux. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. La Bible parle du jugement dernier, qu'il a fixé un jour pour le jugement. La Bible parle beaucoup de la grâce, mais la Bible parle autant de fois du jugement. Il y a un jour qui est fixé pour le jugement. Et le seul moyen d'échapper à la colère de Dieu, à la perdition, aux ténèbres de l'enfer, au lieu de tourment, c'est de se repentir. Il n'y a pas d'autre chemin. Vous êtes-vous repenti ? Vous allez me dire, mais moi je suis catholique, moi je suis évangélique, ah mes parents sont dans une église de Pentecôte. Ça ne veut rien dire. Vous devez reconnaître votre péché, vous devez dire, oui je suis un homme perdu. Vous devez confesser et surtout vous devez l'abandonner. Le mot repentance, c'est peut-être un des mots les plus importants de la Bible. Vous ne comprenez pas trop la vie éternelle, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, le jour de la colère, toutes ces doctrines eschatologiques qu'on présente dans la Bible. Vous ne comprenez peut-être pas tout ça. Mais laissez-moi vous dire que s'il y a bien quelque chose que vous devez comprendre, c'est le mot repentance. Car c'est peut-être le mot le plus important dans la parole de Dieu, que vous compreniez que vous devez demander pardon à Dieu pour votre péché. À quoi ça sert que vous sachiez tout sur le jugement dernier ? À quoi ça sert ? Que vous sachiez tout sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre ? À quoi ça sert que vous me citiez les 136 versets, textes dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui nous parlent de l'avènement de Jésus-Christ ? Ce matin, je me suis appliqué à noter une vingtaine. Je voulais prêcher sur l'avènement, sur la grande tribulation, sur le jugement dernier. Je vais le faire. Je vais le faire et je vais vous dire pourquoi. Parce que cette semaine, j'ai vu sur Internet tout ce qui est dit sur le 21 décembre 2012. À rire et à angoisser. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est quelque chose qui doit ou le faire rire ou l'angoisser. Car croyez-moi, il y a un mélange entre la science, les astrologues, tout ce qui peut exister sur la Terre, les scientifiques et tout ce que vous voudrez, et même certains chrétiens. Un tel mélange que je crois qu'il faudrait peut-être enseigner certaines choses là-dessus. Croyez-moi, la Terre ne sera pas détruite en 2012 parce qu'il faut qu'il y ait, avant le retour de Jésus-Christ, avant là, que les cieux et la terre soient embrasés, il faut qu'il y ait les 1000 ans du règne de paix de Jésus-Christ sur la terre. Donc je peux vous dire que la date, ils se sont même trompés de millénaire. Croyez-moi. Parce qu'il faudra qu'il passe la colère de Dieu après l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation. Et croyez-moi, le Seigneur Jésus ne va pas revenir détruire la terre en 2012. Vous pouvez faire confiance, non pas à moi, mais à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Vous pouvez tout savoir sur l'enlèvement, sur la grande tribulation, sur la colère de Dieu, sur le jugement dernier, sur les nouveaux cieux. Si vous ne vous repentez pas, ça vous servira à rien. La repentance, c'est la chose la plus sérieuse. La repentance, c'est que ça vous pousse dans les bras de Jésus. Ça vous pousse à accepter le Seigneur. C'est pour ça qu'au verset 31, il est dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà ce message. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Est-ce que vous y réfléchissez à ça? Est-ce que vous savez qu'un Dieu, un jour, Dieu jugera le monde? Oui, Dieu est amour. Est-ce que vous croyez que Dieu est amour? Dieu est plein d'amour. Il l'a prouvé. Il a donné la preuve en venant sur la croix, en mourant à notre place, en portant nos péchés, en se laissant crucifier. Jésus-Christ nous a donné une preuve certaine. L'amour de Dieu a été prouvé. Personne au ciel, personne pourra dire, oui, si tu nous avais aimés, on ne serait pas dans ce pétrin. Personne, Dieu a prouvé son amour au calvaire. Personne ne pourra lever le poing et dire, moi je vais m'expliquer avec Dieu. Toute bouche sera fermée et toute bouche, quand elle pourra parler, ne fera faire qu'une chose, confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Et ce texte nous dit d'une autre manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce jugement, il va venir. Vous pouvez y échapper. Vous pouvez échapper à la colère de Dieu. Vous pouvez pas échapper à l'enfer à condition que vous vous repentiez. Ce jour approche. Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de ce moment où tout sera mis en lumière, où tous les hommes devront comparaître devant Dieu. Oui, Dieu a donné une preuve certaine en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Et ce texte nous enseigne que la résurrection de Jésus nous garantit du jugement de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le seul fait que Jésus soit ressuscité des morts nous prouve qu'un jour, obligatoirement, il y aura le jugement de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passera? Vous ne comprenez pas ce qui se passera, mais qu'est-ce qui se passera pour vous? Parce que vous ne sachiez pas ce qui se passera pour Hitler, pour Staline, qui a détruit, je crois, 85 000 églises en Russie de son temps. Il a fait détruire 85 000 églises. Qu'est-ce qui se passera pour Staline? Qu'est-ce qui se passera pour Hitler? Qu'est-ce qui se passera pour Néron? Écoutez, bon, ça devrait certainement très mal se passer. Mais qu'est-ce qui se passera pour vous? Où serez-vous? Votre nom est-il inscrit dans le livre de vie? Votre nom est-il inscrit dans d'autres livres? Le livre des œuvres? Et pour vous, ceux qui auront voulu être sauvés par les œuvres, laissez-moi vous dire que ça ne sera pas une mince affaire. C'est écrit. Que les gens qui auront écrit long dans ces livres des œuvres, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce. Et le texte nous dit, l'homme désigné, c'est Jésus. Le jugement, il se fera par Jésus. Donc, il vaut mieux être du bon côté et avoir accepté Jésus comme sauveur. Alors, est-ce que vous avez accepté Jésus? Qui est Jésus pour vous? Est-ce qu'il règne dans votre vie? Il vous faut répondre ce soir. Est-ce que Jésus règne dans ma vie? Ou est-ce que vous rappelez, quand on a parlé de Jésus, ils ont dit, nous ne voulons pas que cet homme règne. Vous connaissez ce texte dans le nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Alors, est-ce que vous voulez que Jésus règne sur vous? Est-ce que ce soir, vous dites, oui, je veux que Jésus règne sur ma vie? Ne faites pas comme ce bonhomme dans les évangiles, vous savez, qui avait une robe de fin lin. Il avait une robe de fin lin. Il représentait ceux qui sont sauvés, et pourtant, quand il est mort, il nous est dit qu'il est parti dans un lieu de tourment. Il donnait des miettes aux pauvres. Vous voyez, il avait l'apparence de la piété. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ont l'apparence de la piété. Mais quand vous allez mourir, où irez-vous? Irez-vous dans la présence de Dieu ou irez-vous en dehors de sa présence? Il n'y a pas deux solutions. Il n'y a pas trois solutions. Il n'y en a que deux. Ou vous vous moquez. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est bien de voir la réaction. Les uns se moquèrent. Est-ce que vous vous moquez des choses de Dieu?
Est-ce que vous dites, ouais, là, il va trop loin, il faut pas exagérer. Je vais pas trop loin. Je vais là où juste où il faut. Vous dire qu'il n'y a pas 36 000 chemins. Il n'y a qu'un chemin. Est-ce que vous vous moquez? Ou est-ce que vous faites partie des gens? On verra une autre fois. On t'entendra là-dessus une autre fois. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces gens? Qui sont repartis en disant, ce gars-là, il vient de Jérusalem, il est malade. Ce gars. Il parle de résurrection, je pense qu'il a dû choper le soleil. Et c'est ça aujourd'hui. On attendra une autre fois. Il y a des gens, moi j'ai vu un gars là qui vient de temps en temps, depuis que je suis là, il vient. Il vient, il me dit, monsieur Gou, il faut que je donne mon cœur au Seigneur. Il faut que je donne mon cœur au Seigneur. Ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans. Il y en a un autre aussi qui m'appelle 3, 4, 5 fois par an. Ah, monsieur Gou, il faut que je vienne à l'église. Il faut que je vienne à l'église. Et bien, j'ai dit, venez. Il vient jamais. Et il m'appelle 3, 4 fois par an, il faut que je mette ma vie en règle. Il faut que je mette ma vie en règle. Et il le fait jamais. Moi, j'ai dit, écoutez, mais faites ce que vous voulez. Mais à force, c'est un jeu, moi je trouve, très dangereux d'ajourner, parce que quand on ajourne, le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'endurcit. C'est écrit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas son cœur. Alors il y a des gens qui se moquent, il y a des gens qui ajournent, c'est pas mieux. Et puis il y a ceux qui ont cru et qui se sont attachés. Vous avez vu comment ça commence, comment ça termine au verset 34? Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui. Vous savez, c'est une chose de croire en Dieu. C'est une autre chose de s'y attacher et de dire, moi, je veux rester collé au Seigneur. Je veux rester attaché à lui. Une foi, ça représente une foi personnelle. Ce n'est pas la foi de papa, ce n'est pas la foi de maman, ce n'est pas la foi des autres ou la foi de l'autre qui restait avec Dieu tant qu'il suivait Abraham. Il suivait celui qui marchait avec Dieu. Il suivait celui qui suivait Dieu. Mais quand il s'est détourné d'Abraham, hop, il n'a plus suivi le Seigneur. On le voit, il y a des jeunes, tant qu'ils sont avec leurs parents, ils vont à l'église. Et dès qu'ils vont dans une autre ville, hop, ils ne marchent plus avec le Seigneur. Mais ils ne suivent pas Dieu, ils ne sont pas attachés à Dieu. Denis, là, l'aéropagite, c'était bien qu'il bosse à l'aéropage. Comme ça, il a pu entendre l'évangile. En tous les cas, il s'est converti. Et qui sait si ce n'était pas surtout pour lui que Dieu avait voulu cette belle prédication. Ils s'attachèrent à lui. À qui êtes-vous attachés? À Bacchus, hein? À Morphée? À Mars, à Mercure, à qui êtes-vous attaché? Est-ce que vous êtes attaché à Jésus? D'autant plus que quand on est attaché à Jésus, vous le savez, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On ferme les yeux quelques instants. À qui êtes-vous attaché? À qui êtes-vous dévoué? Quel est votre Dieu? Quel est votre Dieu? Vous devez, là, dans le recueillement, dans votre cœur, répondre, dire, oh mon Dieu, c'est l'argent. Mon Dieu, c'est l'alcool, c'est la fête, c'est... Peut-être que le dimanche matin, pour vous, ce n'est pas important. Peut-être que votre Dieu, c'est votre lit. Voilà, qui vous empêche de... Vous voyez, c'est Morphée. Qui est votre Dieu? Qui est votre Dieu? Est-ce que vous pouvez dire, oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis repenti. La résurrection des morts, la résurrection, pardon, de Jésus, nous prouve par ce texte qu'il y aura le jugement de Dieu. Où serez-vous? Où irez-vous? Ce soir, le Seigneur nous rappelle cette importance de rester attaché à lui, d'être fidèle. Peut-être que vous ajournez, vous entendez l'évangile, peut-être même que vous avez pris le baptême, mais que vous ne vous êtes jamais attaché à Jésus. Alors il y a peut-être quelqu'un qui veut qu'on prie pour lui, quelqu'un qui dit, oh ce soir, comme tu avais donné rendez-vous à Denise, à l'aéropagite, tu m'as donné rendez-vous, ce soir il fallait que j'entende, qu'il fallait que je me décide, non pas pour ces dieux de la terre, peut-être que votre Dieu c'est la télévision, c'est Internet, vous êtes tout le temps prosterné devant ces dieux, et que vous ne donnez pas de temps à Jésus. Eh bien, je veux donner l'occasion à celui ce soir qui veut dire, moi je choisis Jésus. L'aéropagite, il n'a pas eu honte devant toute cette foule de stoïciens, d'épicuriens, de philosophes. Il a pris position. Et je crois que ça valait la peine. Qui ce soir veut prendre position et dire, Seigneur Jésus, je sais que le jugement viendra. Et ce n'est pas la pression que je vous mets, mais c'est la vérité. Et la grâce de Dieu est là ce soir. On l'a chanté, il y a la grâce de Dieu qui libère, qui délivre. La porte est ouverte. Ce jour du jugement n'est pas encore déterminé par Dieu, fixé. Il viendra. Et il y a peut-être quelqu'un qui dit ce soir, je veux que ma vie appartienne à Jésus. Je ne veux pas croire en Jésus. Je veux croire et être attaché à lui.
Je veux ressortir de ce lieu de culte attaché à Dieu, mettre ma vie en règle et me repentir. »